Alors, un excellent début de fin de semaine, tout le monde. 19h17, on va commencer notre ronde d'entrevue, un témoignage dans quelques instants. Et d'ici peu, nous allons avoir la possibilité de nous entretenir avec notre premier invité, et c'est le cas. Il est au bout du fil, il est microbiologiste agréé, président des microbiologistes du Québec, et tout ça en réaction à l'annonce aujourd'hui du plan, de la stratégie finalement de la santé publique au cours des prochains jours, prochaines semaines. Question d'avoir une idée encore plus lucide, plus claire sur l'évolution du virus, c'est-à-dire plus de tests. Et c'est là que ça arrive. Là, on va augmenter la capacité de tests, même si on considère que le Québec en a fait quand même sa large part en comparaison avec les autres. Des fois, on aime ça comparer, des fois, on aime ça moins. Avec nous, justement, pour en parler de ces annonces aujourd'hui, eh bien, c'est Christian Jacob, microbiologiste. Monsieur Jacob, bonsoir.
Bonsoir.
La clé une des clés de cette guerre-là, c'est très certainement les tests. Est-ce que vous êtes satisfait du nombre de tests qu'on a effectués jusqu'ici? Et à 14 000 par jour, si on passe de 6 000 à 14 000 par jour d'ici une semaine, est-ce que ça va nous mettre en fonction, en position d'être en avant de la parade ou de suivre encore la parade?
Bien, c'est un excellent premier pas, là. Selon les recommandations de l'OMS, là, il y avait 3 points sur lesquels on n'était pas très fort, ben pas encore assez fort à ma lecture, là, pour commencer à déconfiner. Bon, il y avait d'avoir les transmissions sous contrôle, avoir la capacité de tester et minimiser les risques dans les zones vulnérables comme les CHSLD. Fait que là, on vient répondre à une de ces conditions-là. C'est sûr que notre capacité de tester jusqu'à quel point elle est bonne, ça va dépendre de combien de cas on aura dans le futur aussi. Là, plus qu'on a de cas, plus qu'il faut être capable de tester beaucoup de monde pour être capable de retracer et d'isoler les personnes qui doivent l'être. Puis l'autre point aussi à pas oublier, c'est que la capacité de tester, c'est une très bonne chose. Là, j'en parle à chaque fois que j'ai l'occasion en entrevue, parce que ça fait longtemps que nous autres, ça nous préoccupe là, comme point à améliorer dans notre stratégie. Mais en plus de tester, va aussi falloir que notre capacité à enquêter, à retracer les contacts soit bonne aussi pour être capable de contrôler jusqu'à un certain point la propagation de la maladie.
Voulez-vous dire que actuellement, vous dites qu'il faut qu'elle soit bonne. C'est pas à la hauteur actuellement notre capacité de retracer?
Ben pour l'instant, en fait, les tests et le retraçage là, c'était pour les cas prioritaires principalement, là, les cas dans les CHSLD, dans les hôpitaux et tout ça, les symptomatiques faibles et les contacts des gens qui étaient symptomatiques et testés étaient pas nécessairement testés eux et on procédait pas nécessairement un retraçage de eux avec qui ils ont été en contact. Là, avec l'augmentation de la capacité de tester, ben faudra être en mesure de faire ce travail-là aussi.
C'est drôle parce qu'on dirait, puis pas juste ici au Québec, on ne sait pas quoi faire avec ces tests-là. Est-ce qu'on les utilise comme faux? Là, on est à 6 000 par jour. Puis à un moment donné, on dirait qu'il y a des pays qui délaissent un peu les tests parce qu'ils sont submergés par la vague. Là, maintenant, ben là, l'OMS remet ses impératifs. Là, tout d'un coup, oh, ben là, on va se remettre à plus tester. Ça a toujours été la volonté, mais on dirait qu'au point de vue de la stratégie, là, ça se peut-tu qu'on ait changé souvent de stratégie puis qu'on va continuer de le faire? Puis c'est-tu comme ça que ça doit aller?
Non, je pense pas qu'on a changé de stratégie. C'est plus que tout ça, c'est dans un ensemble très, très grand là, qui contient beaucoup de variables. Là. On avait une capacité faible, puis tous les pays avaient une capacité qui était affaiblie parce qu'on manquait de réactifs, entre autres. C'est pas nécessairement parce qu'il manquait de monde, parce qu'il manquait de machines. Oui, aussi, là, parce que ça prend des machines qui sont particulières pour faire ces tests-là. Mais le manque de réactifs au niveau mondial est un problème sérieux aussi. Donc, c'est pas nécessairement qu'on n'a pas eu la volonté de tester beaucoup, c'est qu'on n'en avait pas nécessairement la capacité.
Les pays qui testent beaucoup, c'est qu'eux, ils en font dans leur pays, quoi?
Ben c'est ça. Un des pays qu'on cite depuis le début, là, comme étant le champion des tests, là, ben là, l'Islande les a dépassés de beaucoup parce qu'ils ont une petite population et sont capables de tester une très grande proportion de leur population. Mais on vante depuis le début la Corée, comme quoi qui ont testé taux et beaucoup de personnes, puis on voit que le taux d'infection journalier là sont à moins qu'une dizaine de cas par jour en ce moment. Il y a une semaine ou deux, ils étaient à moins qu'une centaine de cas par jour également. Eux, dans le fond, ils ont vécu quelques cas du SRAS il y a quasiment 20 ans, puis ils ont eu aussi, ils ont fortement été frappés par le syndrome respiratoire du Moyen-Orient qui était causé par un autre coronavirus, puis ils se sont dit « never again, ça arrivera plus ici », et eux, à ce moment-là, ils ils se sont dotés de la capacité à l'intérieur du pays de faire des tests et de produire des réactifs.
Ce que bien des pays vont faire désormais, j'ose croire.
Exactement. Je suis convaincu que le Canada va se donner une certaine capacité de tester à partir de maintenant, quand la crise sera passée, et même probablement qu'on débutera durant la crise, là, et plusieurs pays vont certainement emboîter le pas.
De quelle façon on a réussi à réduire le temps entre le moment où une personne fait le test, là, passe le test, et le résultat? On est à combien dans le délai, là?
Je pourrais pas vous dire en moyenne on est à combien de temps. Par contre, le test en lui-même, c'est pas extrêmement long. Ça prend plusieurs heures là, mais en une journée, on est capable de faire quand même une run de test, comme on appelle là, une run de PCR. Donc le test en lui-même, c'est pas extrêmement long. C'est sûr que ça implique de faire l'échantillonnage sur le patient, d'envoyer l'échantillon au lieu de où ils vont faire les tests. Ensuite, il y a plusieurs contrôles à faire. Les tests doivent être signé par l'analyste, contresigné et revérifié par soit un épidémiologiste, un médecin ou quelque chose du genre. Donc, tout ce processus-là doit certainement prendre au moins 48 heures. Mais j'ai l'impression qu'en dedans de 48 heures, là, c'est pas mal ce qu'on vise pour avoir les résultats des tests.
OK, au mais début, c'est un gain. C'est un gain. Oui, c'est ça. Parce qu'au début, nous autres, on a eu un cas de COVID d'un de nos collègues et les appels de la santé publique sont arrivés au jour 12 de sa COVID.
Oui, absolument.
Fait que c'était, t'sais, le mal t'est fait. Si on avait eu à contaminer quelqu'un, le mal t'est fait. Mais là, je suis content de savoir qu'on est dans une fenêtre de 48 heures. Là, ben, on peut bouger un peu plus, là.
C'est ce qui est visé. Il me semble avoir entendu Mme McCann parler de ce délai-là, là, d'environ 48 heures. Est-ce que c'est la réalité? Je ne le sais pas, parce qu'au début, on ne nous annonçait pas des temps d'attente de 10 à 14 jours
en plus
pour avoir les résultats des tests. Puis en effet, c'est un coup d'épée dans l'eau rendu là. On a eu le temps d'avoir des contacts et d'avoir transmis à plusieurs personnes qui, eux, l'auront transmis à d'autres. Donc, le retraçage à ce moment-là, c'est pas extrêmement efficace.
Avez-vous, vous, une idée de quelle serait ou quelle sera la meilleure stratégie pour utiliser ces 14 000 tests par jour? Puis vous êtes convaincu qu'on va être capable d'en faire 14 000 par jour, mais au niveau de la stratégie, on les déploie où? Montréal-Nord, les CHC, c'est quoi le plan de match?
Bien, comme le mentionnait M. Arruda, là, vu que notre capacité n'est pas illimitée de tester, il faut tester aux endroits où est-ce qu'on se doute qu'il y a des cas en priorité. On ne veut pas se ramasser à avoir 1% de positifs dans nos cas. Oui, si c'est ça la vraie mesure qu'il y a à avoir, là, mais on veut que nos tests servent à quelque chose, nous servent à trouver des cas et qu'on puisse après ça trouver les contacts et les retracer. J'ai entendu comme question pourquoi qu'on teste pas aléatoirement dans la population. Ben oui, si on avait la capacité de le faire, si on avait assez de tests pour tester tout le monde qui est symptomatique, puis après ça se dire OK, il me reste une capacité d'agir, je vais aller tester de façon aléatoire, ben oui, ça serait bien parce que ça nous donnerait une lecture plus précise de c'est quoi notre prévalence de la maladie, puis on se donnerait la capacité de détecter des cas qu'on n'aurait pas détectés sinon, mais dans le contexte où on n'a pas une capacité illimitée, ben c'est clair qu'il faut viser les endroits qui sont le plus chaud pour concentrer les tests.
Et protéger notre personnel de santé également, préposé aux bénéficiaires,
exact.
Infirmières, et c'est pour ça, je pense que la moitié de ces tests-là vont se faire en milieu hospitalier.
Exact. Et comme... Oui, il y avait 6 000 tests, je pense, qui étaient réservés pour les milieux hospitaliers, les CHSLD, ces endroits-là.
Donc, j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. Avez-vous entendu parler de l'étude qui a été faite par une des dirigeantes du département de soins infirmiers de l'Université à Trois-Rivières? Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Monsieur Jacob, Christian Jacob, microbiologiste. Qu'ils ont fait un test justement pour voir s'il y avait des gens qui étaient asymptomatiques. Ils avaient un échantillon de quoi autour de 350 personnes. Puis il y a 6 personnes sur à peu près 350, là j'y vais de mémoire, qui avaient qui étaient asymptomatiques, qui ont été identifiés avec le coronavirus, qui était bien surpris. C'est-tu des études, vous, qui vous donnent de l'info utile? C'est-tu quelque chose qui... Tu sais, vous avez dit, on veut pas le faire de... Vous venez de parler de tests aléatoires, là. Ça, c'est pas une bonne... Ça, c'était une étude très ciblée, là, mais donc, c'est pas utile de faire ça à large échelle, là, hein?
Ben oui, ça serait utile.
Ah, ça le serait,
c'est
oui?
C'est juste qu'en ce moment...
On n'a pas assez.
Ben c'est ça, vu qu'on n'a pas la capacité de le faire à très 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 largement, ben on le fait aux endroits que c'est le plus utile. Mais comme ce que l'Islande est en train de faire, de tester pratiquement tout le monde là dans leur population, ils ont 150 000 personnes par million d'habitants, je pense, quasiment un sixième de leur population qui a été testée en ce moment. Avec leurs données à eux, on va avoir une très très bonne idée là de c'est quoi la prévalence dans un pays que ça peut être, là. Aujourd'hui, on a lancé le chiffre du 3% de la population du Québec qui serait possiblement touchée, alors qu'on a détecté quoi environ 30 000, je pense, cas qui ont été confirmés. Tout ça est utile quand même, là. Ça nous donne une idée, entre autres, de l'immunité, la fameuse immunité de groupe, là. Quand est-ce qu'on peut espérer voir un effet de ça à 3%? Bon, on en est encore loin, là.
On continue de regarder ce qui se fait partout dans le monde, comme tout le monde regarde. On fait tous la même affaire partout dans le monde. Monsieur Jacob, merci beaucoup de votre éclairage. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci d'avoir été là, puis au plaisir de vous reparler.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Bye-bye.